Les séminaires du Collège de France.
Bien, bonjour à tous, à toutes. C'est la dernière séance, c'est notre séminaire, la dernière fois qu'on se voit dans le cycle des cours et des séminaires cette année. Et je suis très heureux d'accueillir ici Muriel Cohen, qui sera l'unique oratrice. Muriel Cohen est historienne, agrégée d'histoire. Elle a enseigné, comme beaucoup d'agrégés d'histoire, en Seine-Saint-Denis, avant de peu à peu, progressivement, rejoindre les centres de recherche du monde universitaire. Et elle est aujourd'hui maîtresse de conférence à l'Université du Mans. Alors, Le Mans Université, c'est la syntaxe angloïde qu'utilise maintenant l'administration française. Bon. Donc, l'Université du Mans. Et elle a, depuis longtemps, et j'ai regardé ça, et notamment sur la houlette de Marie-Claude Blanche-Aléard, pendant une dizaine d'années, du mémoire de maîtrise au mémoire de DEA jusqu'au doctorat, vous êtes intéressé au logement de l'immigration algérienne, essentiellement, dans de la guerre jusqu'aux années 80, disons. Et ça a donné lieu à une thèse magnifique qui a été publiée, une version a été publiée en 2020. L'immigration invisible, enfin il y a le mot invisible dans le titre, et donc le sous-titre développe qu'il s'agit évidemment du sort qui a été réservé à l'immigration algérienne vers la France, et notamment la question du logement d'une part, la question solidaire du regroupement familial, et vous démontez, vous allez y revenir, je pense, les idées reçues, l'idée reçue selon laquelle le regroupement familial aurait été d'un coup décidé. Alors, les versions varient par Jacques Chirac, Giscard d'Estaing, le Conseil d'État, enfin, il y a plusieurs coupables. Mais, comme l'avait déjà dit depuis longtemps Patrick Veil, l'immigration algérienne était déjà familiale, bien avant, et ces dispositions juridiques n'ont pas eu l'effet considérable, l'effet d'appel dont on parle si souvent, les personnes, voilà. Alors j'ai un souvenir, vous allez beaucoup parler du bidonville de Nanterre, votre thèse publié en 2020, et d'ailleurs à une riche iconographie dont une partie se retrouve dans votre exposé. Et c'est un des souvenirs les plus marquants de ma jeunesse. Je devais avoir 13 ans. Je vivais en Alsace. C'était un de mes premiers séjours à Paris et dans le cadre d'une association humanitaire. Peut-être le Secours catholique, je ne me souviens plus très bien. J'avais, en autobus, visité le bidonville de Nanterre, qui était gigantesque. C'était à perte de vue. À perte de vue, des cabanes, des tôles. Il n'y avait pas de rue, véritablement. Il y avait des chemins boueux où la pluie s'accumulait. C'était très, très impressionnant. Il y avait certes les Algériens, mais il y avait aussi les Portugais, par exemple. C'était dans une petite partie du Milanville. Et c'est un des souvenirs les plus marquants de ma jeunesse. Je n'avais pas imaginé que les gens puissent vivre dans de telles conditions. Alors, vous allez revenir sur tout ça, et donc, comme vous êtes seul aujourd'hui, pour conclure cette série de séminaires, vous avez 50 minutes, une heure, quoi, hein, et puis ensuite on discutera.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie et honorée d'être ici, et je remercie beaucoup François Héran de m'avoir invité à présenter mes travaux et plus largement à revenir ici sur la manière dont l'histoire de l'immigration algérienne a été écrite et diffusée depuis les années 80-90. L'histoire de l'immigration algérienne a longtemps été une histoire à part. Surtout une partie de l'histoire de la guerre d'indépendance et de la colonisation, les travaux pionniers de Benjamin Stora, donc à cette époque, dans les années 80-90, ont vraiment été les premiers à s'intéresser à l'immigration algérienne vers la France. Bon, ça pourrait être nuancé, mais les plus diffusés. Et l'enjeu pour lui était notamment de faire émerger la participation des immigrés algériens en France à cette guerre de libération. Ce qui a fait que pendant les années 90-2000, de plus en plus de travaux ont été consacrés à l'immigration algérienne et ont repris ce cadrage historique en s'arrêtant donc en 1962, au moment de l'indépendance, un peu comme si les Algériens avaient d'un coup disparu du territoire français. Et cette histoire, ça a été évidemment beaucoup une histoire d'hommes, puisque la part des femmes dans la lutte pour l'indépendance est longtemps restée méconnue, en particulier en métropole, jusqu'aux travaux, je dirais, de Marc-André, femme dévoilée, qui lève un voile très intéressant là-dessus. Alors par la suite, l'histoire de l'immigration algérienne s'est davantage inscrite justement dans le mouvement de l'histoire de l'immigration qui avait été initié par Gérard Noiriel. Elle s'est intéressée à leur rôle comme travailleurs et à leur devenir après l'indépendance, bien sûr. Mais 1962 est toujours resté considéré comme une rupture capitale, sans finalement qu'on interroge véritablement les effets pratiques de cette rupture sur les migrants, ceux qui étaient déjà là et ceux qui arrivaient. Et donc mes travaux ont cherché, parmi d'autres, à mesurer les conséquences de cette rupture, et en particulier donc sur l'immigration familiale, comme vous l'a dit déjà Monsieur Errant. Alors, qu'est-ce que j'entends par algérien? Je pense que c'est un exercice auquel beaucoup de mes collègues se sont prêtés, mais il est toujours nécessaire d'y revenir. Ce que j'entends par là, ce sont les populations qui étaient considérées comme indigènes, avec des guillemets bien sûr, par l'État français, et qui ont été saisies sous le statut de musulmans, quelle que soit leur pratique religieuse, jusqu'en 1962, mais aussi au-delà, puisque ces personnes ont d'abord été désignées à partir de 1865 comme sujets algériens, puis comme français nord-africains, mais aussi français musulmans d'Algérie, quand on était en métropole. Après l'indépendance, il a été fréquemment, on a tendance à faire la différence entre donc les Algériens qui vivraient en France, mais qui ont gardé la nationalité algérienne, et les Harkis, une catégorie assez complexe, qui est une manière un peu rapide de désigner les personnes qui avaient pu travailler pour l'armée française pendant la guerre d'indépendance et qui sont parvenues à s'embarquer vers la France et qui sont toujours désignées, notamment au recensement de 1968, comme français musulmans. Donc voilà, ça vous donne un cadre, ça vous montre que je m'intéresse à une population large, en fait, à l'ensemble de la population originaire d'Algérie qui s'est installée en France, mais donc considérée la population colonisée, en fait, ainsi qu'à leurs enfants. C'est un groupe très large qui est traversé par de grandes divisions, notamment au point de vue de la nationalité. Et ces divisions, elles reflètent à la fois des choix individuels et collectif, mais aussi les choix juridiques de l'État français et de l'État algérien face à la décolonisation de l'Algérie. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet aux travaux en cours qui commencent à être publiés d'Emmanuel Blanchard et Linda Guéry sur la question de la réintégration dans la nationalité française. D'un point de vue chronologique, je vais concentrer ma présentation sur la période 1945 jusqu'à aujourd'hui. Disons que je vais tirer quelques fils jusqu'à aujourd'hui, parce que une des particularités de la migration algérienne, c'est qu'elle est active vers la France depuis plus d'un siècle. Ça ne veut pas dire qu'elle est linéaire, mais finalement, elle ne s'est jamais arrêtée. Et je crois que c'est ce qui lui donne, outre la densité des liens très concrets entre les deux pays, qui s'incarnent dans les relations familiales transméditerranéennes notamment, une place vraiment particulière dans l'histoire et aussi dans l'actualité française. Et pour développer mon propos, je voudrais m'appuyer sur une série de photographies de Pierre Boulat, vous en avez une ici, qui date de 1955. Pierre Boulat, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un photographe de presse très, très reconnu, pas forcément très grand public, mais reconnu, qui a travaillé pour de grands magazines internationaux comme Life, mais aussi pour Elle ou pour Paris Match. Et cette série de photographies, qui a été prise dans le cadre donc, d'un reportage sur les Nord-Africains de Paris. Elle a été présentée dans de nombreux cadres, dans des livres, alors, y compris dans le mien, dans des expositions. Et elle incarne en quelque sorte les Algériens qui ont réussi en métropole à l'époque coloniale. Alors, on va regarder un peu cette photographie. Ce qu'on voit, c'est une famille algérienne assez nombreuse, qui est installée de manière très confortable, semble-t-il, à une époque où on est en pleine crise du logement, qui paraît assez exceptionnelle. Ce salon est meublé, décoré à l'oriental, on pourrait dire, avec pas mal de guillemets, mais la famille est vêtue, là aussi, avec des guillemets à l'européenne. Donc il y a le signe, sans doute, d'une double culture. Moi, j'ai utilisé cette photographie dans ma thèse pour illustrer le cas des familles algériennes, donc arrivées en métropole avant l'indépendance, et donc un groupe sur lequel je reviendrai, mais de familles urbaines qui étaient venues rejoindre des travailleurs qualifiés. Et pour moi, il faisait aucun doute, c'est pas forcément quelque chose qui apparaissait dans mon travail, mais il faisait aucun doute que cette famille, elle était restée en France après l'indépendance, comme un grand nombre de familles algériennes qui étaient arrivées avant 62, et que les enfants présents sur cette photo avaient aujourd'hui des enfants français et dont les liens avec l'Algérie seraient plus ou moins étroits. Mais grâce à Annie Boula, donc la femme de Pierre Boula, avec qui j'ai échangé sur des questions de droit d'auteur, je suis entrée en contact avec le fils d'une des petites filles de la famille. Alors je vais essayer de vous... Voilà, celle-ci. Il s'agit de Nour. Je suis rentrée grâce au fils de Nour en contact avec Nour. Et mon regard sur cette photographie a beaucoup changé. Et donc, à travers mes recherches concernant l'histoire de cette photographie et des personnes photographiées, je pense qu'il y a un fil conducteur intéressant pour revisiter l'histoire de l'immigration algérienne en lien avec les évolutions historiographiques récentes concernant l'histoire des migrations. Donc je vais essayer de revenir dans un premier temps sur alors quelque chose qui a déjà abordé le professeur Errant, l'existence donc d'une immigration familiale algérienne bien avant le décret sur le regroupement familial de 1976. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être redit. Le deuxième point que je vais aborder, c'est la variété des trajectoires des migrants algériens en métropole. Je vais essayer de, comme le disait Emmanuel Blanchard, redonner une épaisseur sociologique à cette migration sur laquelle il y a souvent un regard très homogène, on va dire. Et enfin, je vais essayer de voir ce que cette photo nous dit sur l'histoire des migrations algériennes et non plus de l'immigration algérienne. C'est-à-dire une histoire qui prend en compte les étapes, les circulations, les retours au pays. Donc une histoire des Algériens qui ont vécu en France et pas forcément une histoire des Algériens qui sont restés en France et qui sont devenus français. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur le mythe d'une immigration algérienne qui serait restée masculine, en gros, jusqu'aux années 70, alors donc éventuellement jusqu'en 73, date où l'État algérien ferme l'immigration, 74, date où c'est l'État français qui met fin à l'immigration de travail. En tout cas, voilà, quelle que soit la date retenue, effectivement, ce qui domine, c'est l'image d'une migration composée d'hommes célibataires, entre guillemets, puisque souvent il y a l'idée qu'ils seraient mariés en Algérie, qu'ils seraient des ouvriers non qualifiés, assignés donc au foyer Sonacotra ou au bidonville. Ce discours, son corréla, c'est effectivement l'idée que les familles algériennes n'étaient pas présentes en France avant la naissance donc du regroupement familial qui serait né à la suite de la fermeture de l'immigration de travail en 1974. Et notamment, il y a un décret, effectivement, de 1976 qui instaure un droit au regroupement familial. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas avant. En tout cas, il y a une espèce de confusion qui règne avec une immigration familiale qui reste mal connue, peu étudiée, et qui est à l'origine d'un certain nombre de représentations problématiques sur lesquelles je reviendrai, puisque du coup, les familles algériennes semblent surgir dans l'actualité avec les émeutes urbaines du début des années 80. Alors, je vais revenir sur cette photo. Elle est prise donc en 1955, et donc elle nous montre bien qu'il y a des familles algériennes en France avant les années 70. Alors, qui voit-on sur cette photo? Un couple et ses enfants. Je vais vous les présenter. Donc, le père, c'est Abdelkrim Bouzekar. Il est né à Tlemcen, en Algérie, en 1913. Et sa femme s'appelle Zoulia. Elle est née en 1925. Donc, au moment de la photographie, ils ont respectivement 42 et 30 ans. Sur la photographie, il y a aussi 6 enfants. Les 4 premiers, vous allez, les suivre en fonction de leur taille, sont nés en Algérie. Le premier, un petit garçon qui s'appelle Mohamed Sharaf, est né en 1943. La deuxième, Zahira, est née en 1948. C'est la deuxième en partant de la droite. Et il y a Nouria, donc née à Tlemcen aussi, en 1951. Je suis désolée de vous dire que le petit garçon que tient Monsieur Bouzekar, il est né en 1950 et il est mort très peu de temps après la photographie de botulisme après avoir consommé une conserve contaminée. La suivante, la fille suivante, donc c'est celle que je vous ai désignée, c'est Nour. Elle est née en France. Elle est née à Saint-Denis en 1953. Et enfin, le petit dernier dans les bras de sa mère, c'est Abdou Latif. Il est né en 1954 dans le 20e arrondissement. Donc on a une famille dont on peut déduire qu'elle est arrivée en métropole entre 51 et 53, par la date de naissance des enfants. Donc elle a eu des enfants sur place, elle a eu des enfants en Algérie. Et évidemment, la question que ça pose, c'est est-ce que cette présence familiale, est-ce que cette photo, elle est unique? Est-ce qu'elle, c'est un cas à part? Ou est-ce qu'elle nous dit, finalement, elle est le signe d'un phénomène plus large? Alors, je vous donne quelques chiffres. J'ai pas voulu... Je suis désolée pour cette slide, mais normalement, je vais pas vous assommer de chiffres. Le nombre d'Algériens en France, il est connu par les recensements de l'INSEE. Il y a toujours évidemment un certain nombre de précautions à prendre. Ça donne quand même un ordre de grandeur assez fiable. Donc il n'y a pas de raison de ne pas s'appuyer dessus. Donc effectivement, on recense 22 000 Algériens en 1946, 10 fois plus en 1954, 350 000, donc une augmentation pendant la guerre qui fait qu'on est à 350 000 en 1962. Et la croissance continue, 550 000 en 68, 700 000 en 75 et même 800 000 en 82. Trouver les chiffres des femmes est plus compliqué. D'abord, les femmes algériennes n'étaient pas autorisées à s'installer en métropole pendant l'entre-deux-guerres, jusqu'en 1947. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques femmes qui sont venues en France, éventuellement qui s'y sont installées. Mais c'était un phénomène assez rare. Donc c'est après la Seconde Guerre mondiale et l'instauration du statut des Algériens qui sont désormais des citoyens français que on ne peut plus évidemment empêcher les femmes de circuler. Le ministère de la Santé publique et de la Population en recense à peu près 3000 en 1952. Sur ces cartes, qui valent ce qu'elles valent, mais ce qu'on peut voir sur la carte dénommée carte 4, c'est en tout cas que la concentration des femmes dans les centres urbains est clairement plus importante que les Algériens qui sont un petit peu plus dispersés, eux-mêmes étant déjà quand même très concentrés sur les zones urbaines et industrielles. Les chiffres d'André Michel, une sociologue qui a beaucoup travaillé sur l'immigration algérienne dans les années 50, alors elle avait bien noté qu'au recensement de 54, on avait dénombré à peu près 10 000 femmes musulmanes établies en France. En 55, on considère qu'il y en a à peu près 10 000, donc effectivement, ça fonctionne. Il y aurait à peu près 25 000 femmes algériennes en 62 et près de 50 000 en 68. Donc, on voit bien que l'idée de l'arrivée de l'immigration familiale algérienne dans les années 70 ne fonctionne pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces chiffres, malgré ces chiffres qui, en réalité, étaient toujours disponibles, l'invisibilité des femmes, des familles, des enfants a persisté dans les représentations. Et on va essayer un peu de comprendre pourquoi. En fait, dans l'entre-deux-guerres, et jusqu'à la guerre d'indépendance, on peut dire, jusqu'aux années 56-57, il y a des familles qu'on peut qualifier d'algériennes en métropole, mais en réalité, c'est la plupart du temps des couples mixtes, composés d'un homme algérien et d'une femme française ou européenne. Je vous donne un exemple, celui d'Aubervilliers, où on voit, dans l'état civil, effectivement, des familles mixtes qui se forment dès l'entre-deux-guerres. Il y a un premier enfant avec un patronyme maghrébin qui est reconnu par son père en 1921. Alors, il y a des petites Louise et Lucienne qui naissent là de père marocain en 1927, mais aussi des René et Roland, qui sont les enfants de Ahmed Aït Slimane, qui est venu de Kabylie, et de Marie Paolella, qui est venue d'Italie, qui sont nés en 1926 et 1932. Voilà, c'est seulement quelques exemples. On voit aussi, dans les recensements, des hommes qui viennent avec leurs enfants, souvent avec leurs fils. Donc on peut parler là aussi hein, d'une population familiale à partir des années 50. Dans certains cas, en fonction de l'âge des enfants, c'est pour scolariser ces enfants, pour leur permettre d'être scolarisés. Vous savez qu'en Algérie, cette scolarisation était très limitée, très inégale, en particulier dans les zones rurales. Et donc c'est finalement une motivation qui est assez peu mise en avant, mais qui était vraiment fondamentale. Il s'agissait aussi, dans certains cas, de faire rentrer un double salaire, puisque jusqu'en 1959, la scolarité n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Mais il y a un tournant, ensuite, avec la guerre d'Algérie et l'ouverture des camps de regroupement à partir de 1955. Et à partir de là, on va assister à une immigration familiale de refuge, en fait, là aussi qui a rarement été désignée comme telle, qui part en particulier des Aurès. Et donc, il y a des femmes, beaucoup de femmes, j'y reviendrai, qui arrivent sans forcément avoir le temps de prévenir leur mari pour fuir les régions qui sont les plus marquées par la guerre. Et ces arrivées se poursuivent après 1962 dans un contexte à la fois de déstabilisation économique de l'Algérie de croissance économique du côté français. Et après 62, il va y avoir un changement progressif dans la législation avec une volonté de limiter les arrivées des familles algériennes en France, à la fois de la part du gouvernement français, mais aussi du gouvernement algérien. Et en 1964-65, est mis en place un certificat de logement pour les familles qui va bloquer très largement les départs de familles algériennes vers la France. Ce qui peut vous paraître contradictoire avec le fait que je vous ai dit que la population familiale algérienne continuait à progresser. Et en fait, c'est ce sur quoi je veux insister et qui me paraît très important, c'est de comprendre que cette croissance de la population algérienne à partir de l'indépendance, évidemment, il y a toujours une immigration, mais il y a aussi beaucoup de naissances sur place. Voilà. Il y a beaucoup de naissances sur place, comme dans la famille Bouzécar. Vous avez vu que c'était une famille nombreuse et c'est une situation qui est répandue. Entre 56 et 62, il y a eu 58 000 naissances d'enfants de mères algériennes en France. Et je vous demande de me croire sur parole ou d'aller lire mon livre, mais pendant la période des années 60-70, la croissance du nombre d'enfants algériens, en France est davantage liée aux naissances sur place qu'au solde migratoire. Notamment parce qu'il y a des blocages qui ont été mis en place, des restrictions à l'immigration. au recensement de 75, il y a en France 130 000 enfants qui sont nés de pères algériens en France entre 1946 et 1966. Et donc, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils restent largement invisibles et n'apparaissent au grand jour que lors des émeutes, donc de Villeurbanne, de Vénissieux, par exemple, en région lyonnaise au début des années 80, et puis évidemment avec la marche aussi pour l'égalité de 1983, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui apparaissent dans un contexte de discrimination policière, dans l'accès au marché du travail et au logement de ces jeunes qui sont à l'origine de ces différentes formes de revendications. Donc voilà, je termine là-dessus, mais l'idée reçue de l'arrivée de familles algériennes à partir de 1976 est fausse. Elle est fausse et elle pose problème. Sa mise en avant systématique pose problème parce que, de mon point de vue, il s'agit d'une forme d'instrumentalisation politique. La plupart du temps, quand on insiste sur la naissance du regroupement familial en 1976, ça va être pour dire que quelques années plus tard apparaissent les premières difficultés dans les banlieues, dans les grands ensembles, et justement donc les émeutes urbaines. Donc c'est une façon d'associer naissance de l'immigration familiale, et notamment en provenance des anciennes colonies, et début de ces difficultés. Or, j'espère vous avoir montré que cette immigration est en réalité plus ancienne. Donc de ce point de vue, je trouve que la photographie de Pierre Boulat incarne un aspect important de cette histoire de la migration algérienne en France. Maintenant, dans une deuxième partie, je vais revenir sur les représentations de l'immigration algérienne du point de vue de leur situation socio-économique dans les années 50-70. Donc, je l'ai déjà dit, cette représentation, c'est des travailleurs surtout, éventuellement des familles de sous-prolétaires qui vivent dans des logements insalubres ou des bidonvilles, faute de revenus stables. Aujourd'hui, les bidonvilles de Nanterre sont devenues, et peut-être que j'en suis en partie responsable, mais dans les manuels scolaires, mais c'est intéressant, hein, vraiment le symbole des limites des Trente Glorieuses. Mais du coup, ils sont aussi devenus très souvent la seule manière de percevoir la condition algérienne à l'époque. Alors, essayons de voir ce qu'il en est. La situation des Algériens donc célibataires qui arrivent en métropole au début des années 50 est effectivement très difficile, parce qu'au début des années 50, la reprise économique n'est pas vraiment là. Donc en fait, ils sont souvent au chômage, ils ne sont pas protégés comme les autres travailleurs étrangers par des accords bilatéraux. Et en relisant André Michel, j'ai été attirée sur ce qu'elle elle parle d'un bidonville algérien quand même le long du boulevard Montparnasse, en face de la gare Montparnasse. Et donc il y a effectivement un article du Monde daté de novembre 54, signé d'Eugène Manoni, qui évoque bien ce bidonville. Et donc c'est vrai que c'est impressionnant. Elle rappelle aussi dans son ouvrage Les travailleurs immigrés algériens, paru en 56, que lors de l'hiver 54, donc l'appel de l'abbé Pierre, en fait, c'est les Algériens qui forment la majorité des sans-abri. Et elle dit donc que sur 1600 personnes secourues d'urgence à la suite de cet appel, 67% étaient des Algériens. Excusez-moi. Toujours selon elle, 20% des locataires de Garni, de la Seine, vous savez, hein, l'ancien département de la Seine qui a existé jusqu'en 68 et qui comprenait Paris et sa petite couronne, donc 20% des locataires de Garni de la Seine étaient d'origine nord-africaine, ce qui désigne très largement les Algériens, soit 80 000 sur 400 000. Et elle dit « Tous ces Garnis se caractérisent par leur vétusté, leur délabrement et leur surpopulation. La discrimination dont font preuve les hôteliers européens à l'égard des nord-africains les a forcés à s'installer dans des hôtels tenus par des compatriotes ou bien des hôteliers européens dont les chambres sont vétustes, choisissent délibérément la clientèle nord-africaine, plus rentable puisqu'on peut entasser plusieurs nord-africains dans une chambre et que chacun paye un loyer. » Vous pouvez remarquer la modernité de son travail qui parle déjà des discriminations. Alors, la situation de l'emploi des Algériens va s'améliorer avec le redémarrage industriel, hein, à partir de la moitié des années 50, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les Algériens sont restés durablement assignés à des formes d'habitat spécifiques, comme notamment les foyers Sonacotra, sur lesquels a travaillé Choukri Med et sur lesquels je ne vais pas revenir ici. On pourra en reparler si vous le souhaitez dans les questions. Donc tout ça est attesté et est une réalité, bien sûr. Mais il me semble que cette réalité a tendance à dissimuler la diversité des parcours des Algériens, qui s'est manifestée en réalité dès l'entre-deux-guerres. Et cette diversité des parcours, elle est liée en fait aussi à une certaine diversité sociale au sein de la population colonisée en Algérie. Et ça, c'est quelque chose dont témoigne le cas de la famille Bouzekar, donc sur lequel je vais revenir à nouveau. On va repartir de ces familles telles qu'elles ont, enfin de ces photographies plutôt, excusez-moi, telles qu'elles ont été publiées sur plusieurs supports qui se complètent et qui se contredisent à la fois. Donc je vais vous emmener un petit peu dans l'enquête que j'ai menée pour essayer de comprendre qui était cette famille, où elle habitait à l'époque, etc. Alors moi, la première fois que j'ai pris connaissance de ces photographies, en fait, c'est dans le catalogue de l'exposition « Vie d'exil », donc qui avait eu lieu à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration en 2012. Et donc, dans le catalogue qui avait été dirigé par Benjamin Stora et Linda Amiri, il y a cette photographie donc assez extraordinaire avec cette légende « Famille nouvellement installée dans un appartement neuf à Gennevilliers ». Bon, et puis, donc en essayant de chercher un petit peu plus, je suis tombée sur le site internet donc animé par Ali Boula, qui conserve les photographies de son fils et de sa fille Alexandra. Et sur cette photographie, qui apporte quand même plus d'éléments, on voit que c'est la même série. Alors, on ne sait pas où a été prise la photo, par contre, vous pouvez lire, vous pouvez le lire deux fois, j'avais peur que vous n'arriviez pas à lire, que M. Abdelkrim Bouzekar, gardien d'usine, a réussi. Il a fait venir sa famille et grâce auprès de l'association d'aide aux familles nord-africaines, il a pu acheter cet appartement qu'il paiera en 20 ans. Donc, très bien. Et finalement, la photographie, elle est parue à l'origine dans Paris Match en 1955, à l'occasion d'un article consacré à l'émeute de la Goutte d'Or, qui a été d'ailleurs étudié, qui a fait l'objet d'un article d'Emmanuel Blanchard. Et là, je vous fais le zoom, évidemment. Donc vous voyez qu'il y a la photographie de gauche, la photographie de droite. Et donc, photographie de gauche, cette famille kabyle habite à Gennevilliers, une cabane de planches et de tôle. Ils sont 8 grands-parents, parents et 4 enfants dans une seule pièce. Et à droite, Abdelkrim Bouzekar est un riche, entre guillemets, gardien d'usine. Il gagne 29 000 francs et a 6 enfants. Il a acheté à tempérament, donc pour les plus jeunes, je traduis, à crédit, un 3 pièces à Choisy le Roi. Alors, on voit qu'il y a un certain flou dans ces légendes, qui n'est pas étonnant, en fait, qui traduit souvent... le peu d'attention, alors je crois que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer, mais qui a été porté aux photographies comme source historique, le fait qu'elles étaient souvent réduites à un statut illustratif qui faisait qu'on n'allait pas voir de très près de quoi il s'agissait, hein, ce qui est d'ailleurs le cas finalement dans mon livre, puisqu'à ce moment-là, je n'ai pas conscience de tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la source d'origine indique que la famille n'habite pas à Gennevilliers, mais à Choisy-le-Roi, en banlieue sud. Ce n'est pas tout à fait au même endroit. Alors, ce qu'on comprend, du coup, quand on regarde les pages de Paris Match, c'est sans doute qu'au moment du catalogue, il y a eu une confusion... mais qui est aussi une espèce de... Enfin, voilà, qui traduit aussi des associations d'idées peut-être un peu inconscientes entre cette famille qui a choisi le roi et la photo d'à côté qui a été prise à Gennevilliers. En tout cas, voilà, cette confrontation des sources, elle est intéressante, mais il y a encore des questions donc, qui demeurent. Comment un gardien d'usine parvient à bénéficier d'un crédit. Donc, on a une partie de la réponse. Hein. Il y a un prêt de l'association d'aide aux familles nord-africaines. Donc, c'est spécifique aux familles africaines. Est-ce que c'est une pratique courante ? Voilà, on a envie d'en savoir plus. Et puis, quand même, on se dit, ce logement, il est vraiment, il a l'air très beau, il est merveilleusement meublé, avec des tapis, des divans. Les meubles coûtent cher hein, à l'époque. Et donc, bon, ça paraît quand même assez exceptionnel, même pour une famille, enfin, à une époque où les ouvriers français sont majoritairement eux-mêmes logés dans des logements insalubres. Je vous rappelle que la moitié des logements français n'ont pas l'eau courante en 1948 et les trois quarts n'ont pas de salle d'eau. Donc, il y a vraiment un enjeu à essayer de comprendre cette situation, ces conditions de logement en 1955. Est-ce que c'est exceptionnel, voilà, ou quand même dans un contexte où la situation coloniale induit des rapports économiques très déséquilibrés hein, en défaveur des Algériens. Et donc, il faut essayer de comprendre le parcours de cette famille. Donc, ce parcours, j'ai pu quand même le reconstituer en partie à partir d'entretiens donc, avec la fille d'Abdelkrim Bouzekar, donc, qui s'appelle Nour Dendan, et son fils Mohamed Dendan, et puis aussi la consultation d'archives. Je vois que il faut que je ne perde pas trop de temps, mais je vous présente quand même un petit peu le parcours de cette famille. Donc, Monsieur Bouzekar, il est né à Tlemcen en 1913. Il s'est marié avec Zulia en 1941. Et donc, lui, il avait 28 ans, elle en avait 16. Son grand-père, à lui, était maréchal ferrant, ce qui est déjà un statut social relativement favorable. C'est pas un fellah, c'est pas un petit agriculteur qui est soumis aux caprices du climat et aux confiscations de terres. Il a reçu une éducation primaire, ce qui est rare, même en ville, à l'époque où il naît, pour les Algériens. Et il en a conservé, semble-t-il, une belle écriture. C'est sa fille qui dit ça, que c'était quelqu'un voilà, qui écrivait très bien, qui était très ordonné, etc. Néanmoins, il est devenu orphelin à l'âge de 12 ans et s'est retrouvé chargé de famille de son frère, de sa sœur. Donc il a fait des petits métiers, notamment il aurait vendu des oranges et voilà, fait plein de petits métiers à Tlemcen. La suite de l'histoire, je l'ai trouvée dans son dossier du ministère du Travail qui nous renseigne sur sans doute son parcours tel qu'il l'a présenté lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que là, donc voilà, Tlemcen, on apprend qu'il a travaillé à l'hôtel de la Compagnie Générale Transatlantique de Tlemcen, où il a été serveur, apprenti, serveur, puis chef de rang entre 1929 et 1935. Donc à partir de ses 16 ans, il a une expérience de la fréquentation de la population européenne d'Algérie, et même des métropolitains qui viennent faire du tourisme dans ces hôtels de la Compagnie Générale Transatlantique en Algérie. Par la suite, il a été engagé volontaire dans l'armée à partir de 1935 jusqu'en 1940. Il est allé en Tunisie, au Levant. Et de 40 à 43, il est maître d'hôtel au mess des officiers du 2e Spahi algérien, puis rappelé en 43 sous les drapeaux jusqu'en 45. Après la guerre, il est toujours en Algérie, il devient gérant d'un hôtel-restaurant pendant 5 ans, et puis peut-être que celui-ci fait faillite, et il devient maître d'hôtel à Alger, à l'hôtel Albert Ier, qui est un hôtel de luxe, pendant 2 ans, et finalement il est ensuite commerçant d'articles indigènes entre 51 et 53. Et donc c'est toujours ce moment où on ne sait pas s'il est entre métropole, s'il est en métropole ou en Algérie. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1953, il est en métropole puisque sa fille naît à Saint-Denis et qu'apparemment la famille vivait alors dans un hôtel à Aubervilliers. En 1953, il devient magasinier, en France donc, dans un centre de la FPA, c'est la formation professionnelle pour adultes. Et donc en fait, c'est sans doute ce qui explique qu'il soit présenté sur la photographie comme un gardien d'usine. Ça a dû être une façon de simplifier. Plutôt que de dire magasinier pour la FPA, de devoir expliquer ce que c'est que la FPA, ils ont dû dire gardien d'usine. Bon. 53, c'est l'année où il s'est installé dans ce logement, qui se trouve, Alors, je suis désolée, cette photographie est vraiment pas belle, mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ressemble le bâtiment dans lequel la photographie a été prise. L'adresse, c'est 24 rue Albert Ier. Donc là, il y a écrit 20, mais je vous demande de me croire. Il y a bien écrit sur le panneau 20, 22, 24 rue Albert Ier à Choisy. Et du coup, se repose cette question, comment est-ce qu'il a obtenu ce prêt alors qu'il était magasinier ? En fait, sa fille, Nour, a mentionné le fait que son père, il avait des amis français, un peu haut placés, mais des vrais amis, des gens avec qui il fête le réveillon. Comme Monsieur Bouzécar a été cuisinier dans des hôtels de luxe, il fait visiblement très bien la cuisine. Et donc, il invite ses amis français pour le réveillon, il prépare le repas pour tout le monde. On peut se demander si c'est pas ses amis qui ont aidé la famille à obtenir le prêt, peut-être en se portant garante. On peut aussi se demander si l'origine de ces très beaux meubles, c'est pas cette période où il a été commerçant d'articles indigènes. Voilà. Est-ce que c'est pas ça qui lui a permis de se procurer ces meubles ? En tout cas, une chose intéressante, c'est que la toile, désolée, que vous voyez en arrière-plan, elle a été réalisée par son frère, Djilali, qui était artisan tisseur et qui avait reçu une médaille du gouvernement français comme meilleur artisan de France. Voilà. Donc ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent de comprendre qu'il y a un statut social de cette famille à l'origine en Algérie, même s'il y a eu des formes de déclassement liées au fait qu'il soit devenu orphelin. Et donc, la fin du parcours, c'est qu'en juin 1955, mais donc sans doute après que la photographie ait été prise, excusez-moi, il est embauché comme contractuel en tant que contrôleur social de la main-d'œuvre nord-africaine. Et donc là, il y a quand même un changement de statut social, puisque son travail consiste à prospecter pour du travail dans des usines pour des demandeurs d'emploi nord-africains et à les placer. Donc il devient une sorte de cadre, un employé qui ne fait plus un travail manuel. Voilà. Et du coup, la photographie, évidemment, elle est très réductrice par rapport à la trajectoire. Ce parcours d'Abdelkrim Bouzécar, il n'est pas exceptionnel, mais il est remarquable. C'est celui d'un Algérien urbain, alors que la majorité de la population algérienne est quand même rurale, et qui travaille donc au sein de la société européenne, d'abord dans l'hôtellerie, puis au sein de l'armée, et qui réinvestit les compétences qu'il a acquises, donc qui va travailler au Metz, etc. Et son départ en métropole, dans un contexte où l'administration française cherche du personnel d'encadrement qui parle arabe, et qui est considéré comme loyal, évidemment, d'un point de vue politique, donc lui, il a fait l'armée, il a obtenu le grade de maréchal des logis, nous amène à faire l'hypothèse que son parcours, en fait, lui a permis d'intégrer les codes de cette société européenne, mais aussi un peu des élites, parce qu'il a servi dans ses hôtels prestigieux, etc. Et que c'est ce qui lui a permis d'avoir ce parcours. Mais ce parcours, il n'est pas inédit, encore une fois, et il faut le réinscrire dans la temporalité de l'immigration familiale de l'époque. Et comme je vous l'ai dit, en fait, en 1955, c'est pas inédit qu'il y ait des femmes, il y en a 3000, 4000, 5000, qui vivent en métropole, et ces femmes, elles vivent dans des conditions relativement favorables, dans le sens où les familles qui viennent s'installer en métropole à cette date-là, c'est parce que leur mari a une position stable et bien rémunérée. Voilà. Et ça, toutes les sources le disent. Je vous donne un exemple, c'est une assistante sociale qui dit en 1956, les musulmans qui font venir leur famille sont en général des Nord-Africains bien adaptés à la vie européenne et qui ont un salaire sûr. Et donc, il y a un basculement qui se produit avec la guerre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est que, en fait, ça devient, face aux violences, face aux déplacements de population, les familles arrivent de manière précipitée, c'est l'immigration refuge, auprès de chefs de famille qui, eux, n'ont pas de revenus suffisants, ne sont pas forcément stabilisés, et qui donc ne vont pas pouvoir les accueillir autrement, notamment que dans des logements insalubres et dans des bidonvilles comme ceux de Nanterre. Donc, je vous donne quelques chiffres. Les bidonvilles de Nanterre, qui sont, je le précise tout de suite, donc pas les seuls bidonvilles en France. Il n'y a pas que les Algériens qui vivent dans des bidonvilles à cette époque. Les Portugais, comme vous l'avez dit, sont nombreux également, sont même plus nombreux que les Algériens quasiment dans les années 60. La majorité des Algériens ne vivent pas en bidonville. D'accord ? Pour autant, évidemment, que ce cas des bidonvilles de Nanterre, c'est spectaculaire. Il y a 200 familles qui vivent en 1959 pour à peu près 6000 célibataires. Deux ans plus tard, en 61, il y a 800 familles qui vivent dans ces bidonvilles, tandis que le nombre de célibataires a diminué. Et cette croissance, elle va continuer jusqu'en 1965, jusqu'à atteindre à peu près 10 000 habitants. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ces bidonvilles ne représentent pas la situation de la majorité des familles algériennes. À l'échelle nationale, c'est sans doute 10 à 15%. Évidemment, c'est considérable, mais c'est loin d'être la majorité de la situation des familles algériennes. Pourtant, voilà, il y a cette association qui était très présente, et cette association, elle est liée notamment au fait qu'il y a énormément de photographies. Et ce dont vous avez témoigné dans votre expérience, le fait que voilà, il y avait des enfants qui venaient faire une forme de travail social dans les bidonvilles de Nanterre, c'était voilà, vraiment devenu un espèce d'emblème, un point de cristallisation, notamment pour la gauche sociale, pour la gauche catholique. Et il y a énormément de photographies qui ont été réalisées là-bas, qui ont été diffusées, avec une vision souvent très empathique, mais de mon point de vue assez misérabiliste, parce que c'est des photographies qui ont été la plupart du temps prises par des gens extérieurs qui venaient là pour quelques heures, qui pouvaient pas se lier avec les habitants, qui rentraient pas dans les logements, même dans les cours, et qui donc donnent ce type de photographies qui traduisent bien une réalité, hein, évidemment, mais donc voilà, on va voir des enfants qui jouent sur les terrains vagues. Ce qui est intéressant, c'est de confronter quand même ces photographies à d'autres qui sont moins connues, qui ont moins circulé, notamment les photographies de Monique Hervault et celles de Serge Santelli, donc à droite, qui sont des photographies qui sont réalisées par des gens qui ont passé du temps sur place, qui sont proches des familles et qui donc sont entrés dans leur intimité, qui les connaissent. Qui donne accès. Un mot sur Monique Hervault, bien sûr. Monique Hervault, c'était une travailleuse sociale, mais indépendante. je la qualifie parfois d'établie. Donc, c'est quelqu'un qui s'est installé dans les bidonvilles de Nanterre, dans le bidonville de la Folie, à partir de 1959, dans le cadre du Service Civique International, qui était un peu une association de chantiers de construction. Elle a rompu avec eux pendant la guerre d'indépendance sur des questions justement politiques, de rapport avec le FLN. Et elle est restée sur place, mais pas seulement jusqu'en 62, elle est restée jusqu'à la résorption totale des bidonvilles en 71. Par la suite, elle a rejoint la CIMAD, elle a continué à militer pour le droit au logement des étrangers, et elle est décédée l'an dernier. Ça a été quelqu'un de fondamental pour mes travaux et quelqu'un dont j'étais proche et que je regrette. En tout cas, voilà. Et par ailleurs, parmi ses nombreuses qualités, même si elle avait un très mauvais caractère, Monique Hervault a fait des très belles photos parce qu'elle avait commencé par une formation aux Beaux-Arts. Et donc, elle a laissé des milliers de photos qui sont disponibles à la Contemporaine, et voilà, notamment des portraits de famille, et des portraits de famille qu'elle fait comme elle prend des amis, quoi, en fait, comme elle prend des proches. Sur les photos de droite, c'est un peu différent, c'est des photographies qui ont été réalisées, en fait, par des étudiants en architecture, en 1968, dans un autre bidonville. Et voilà, et ces photographies sont aujourd'hui disponibles aux archives départementales, Et c'est aussi des photographies très intéressantes parce que Monique Hervault, elle était très proche des familles, mais elle avait une pudeur qui faisait qu'elle ne prenait pas de photographies à l'intérieur des baraques parce qu'elle trouvait que voilà, c'était une trop intime. Et ces jeunes étudiants, avec la fougue de la jeunesse, ne se posent pas ces questions et eux, ils photographient l'intérieur des baraques. Donc ça fait quand même une source assez extraordinaire. Et je vous montre une... Non, je confonds entre les deux ordinateurs. Une dernière photographie extraordinaire, puisqu'elle a été prise par des habitants du bidonville de la Folie dans leur baraque à l'occasion d'un anniversaire. À la fin, voilà, c'est à peu près à la fin de l'époque des bidonvilles. Ils vont bientôt disparaître. Mais ce qui est évidemment assez remarquable, c'est que qui pourrait dire que cette photographie a été prise dans une baraque de bidonville. Voilà. Dans ma thèse, je ne vais pas l'illustrer ici, mais j'ai une autre source qui a permis de faire émerger une couche de migrants plus favorisée à partir des années 60. C'est les dossiers de regroupement familial, justement. Sur les 700 dossiers qui ont reçu une réponse favorable, qui ont été déposés dans les Hauts-de-Seine entre 66 et 76, et qui ont reçu une réponse positive. Alors, où se logent ces familles? Pour un tiers, elles sont logées dans le parc ordinaire, dans des logements sains, relativement confortables. Un quart ont accédé à un logement social, un cinquième sont dans des formes de location diverses, et il y a aussi 10% de propriétaires. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les années 60-70, coexistent des familles très mal logées, en bidonville, en cité de transit, dans des logements insalubres, et aussi voilà, ces différentes strates de familles qui sont arrivées au cours du temps, et notamment les nouveaux venus, qui sont aussi des jeunes couples issus des villes. Donc c'est pas l'époque de Monsieur Bouzécar, c'est l'époque postérieure, avec des chefs de famille qui sont relativement formés, qui viennent souvent avant même d'avoir eu des enfants, ils viennent juste de se marier, et qui parviennent aussi à se loger de manière décente. Donc, mon propos n'est évidemment pas de minimiser les discriminations dont les Algériens ont fait l'objet, à la fois dans l'accès au marché du travail, là-dessus vous avez les travaux de leur pitié, dans l'accès au marché du logement, dans ce contexte colonial et post-colonial, mais ce sur quoi j'essaie d'insister, c'est l'importance de voir aussi la diversité de ces trajectoires et d'insister aussi sur ce qu'on appelle, vous avez dû en entendre parler, l'agency, la marge de manœuvre de ces migrants qui, malgré un contexte extrêmement contraint au point de vue économique et législatif, parviennent à partir de leurs propres ressources, mais des ressources, encore une fois, qui sont souvent cumulées avant leur départ, qui tiennent à leur situation en Algérie, et ils parviennent donc à améliorer leur situation et celle de leur famille. Donc, dans une dernière partie, si j'ai bien une heure, comme on l'a dit au départ, il me reste donc à peu près 10 minutes, je vais essayer de vous dire ce qu'est devenue la famille Bouzécar et qu'est-ce que ça nous dit sur la condition des Algériens en France et les relations franco-algériennes. Alors, pendant longtemps, je reviens à cette manière dont on a écrit l'histoire de l'immigration algérienne, on s'est focalisé sur le processus de l'enracinement, sur l'intégration. C'était une question au moment où naît justement, c'est pour ça aussi que naît l'histoire de l'immigration en France. Il y a un discours qui se développe, il y a la montée de l'extrême droite, du Front National, et le développement d'un discours sur un supposé problème d'intégration des migrants issus des anciennes colonies. Et donc les historiens vont faire ce travail d'aller voir comment ça se passait avant, comment ça s'est passé pour les Polonais, pour les Italiens, etc. Et essayer de comprendre, voilà, est-ce que c'est la même chose ou pas. Donc ils vont voir beaucoup de similarités, peut-être qu'ils vont... disons que la dimension coloniale n'est peut-être pas encore suffisamment prise en compte dans cet héritage et dans le poids des discriminations, intergénérationnelles. En tout cas, aujourd'hui, Et notamment, je pense, mais peut-être que François Héran, il reviendra mieux que moi, mais face au mouvement migratoire intense que connaît l'Europe depuis 2015, et aussi en appui, je pense, sur des travaux très intéressants, je pense à ceux de Paul-André Rosenthal ou de Jean-Claude Farcy, sur les mobilités migratoires au XIXe siècle, on a repensé aussi la manière de penser l'immigration avec une attention plus importante aux circulations, aux étapes, aux phénomènes d'aller-retour. Et donc c'est finalement là-dessus que la photographie des Beaux-Écarts est à la fois la plus contre-intuitive et la plus importante peut-être. Parce qu'en fait, contrairement à ce que moi j'avais imaginé en voyant la photographie, le témoignage de Mohamed Dendan m'apprend que la famille est repartie en Algérie en 1968. En raison, pour différentes raisons, des motifs qui se combinent, qui tiennent à l'emploi, à la maladie et au sentiment de discrimination. Donc évidemment, il est difficile de faire la part des choses entre ces différents facteurs, mais les documents administratifs viennent bien confirmer ces propos. Donc en fait, M. Beaux-Écarts, il entre en congé maladie à partir de 1967 et il a droit à un congé pour une durée maximale de 3 ans. Donc on comprend que la situation est grave. Et en 68, après 15 ans de vie en France, toute la famille quitte Choisy-le-Roi pour repartir à Tlemcen. Ce retour, il est donc lié, encore une fois, à son état de santé, mais aussi, semble-t-il, ça c'est le témoignage de sa fille, au fait qu'il ne peut pas devenir titulaire. Il ne peut pas devenir titulaire de son poste. Il est toujours contractuel au ministère du Travail, chargé donc de la population nord-africaine, hein, c'est toujours la manière dont on la désigne à peu près à ce moment-là. Et il ne peut pas devenir titulaire s'il ne prend pas la nationalité française. Mais lui, il le refuse et il tire une grande amertume de cette situation. Sa fille mentionne également une montée du racisme. Elle dit qu'elle a été insultée par les voisins le jour de son déménagement, le jour où elle quitte le logement de Choisy-le-Roi. Et donc, à son retour, ils repartent en Algérie et en 68, le Wali, donc l'équivalent du préfet, confie, ce qui n'est pas très étonnant étant donné les fonctions qu'il a eues, lui confie 2 usines à Tlemcen. Mais bon, en fait, monsieur Beaux-Écarts, il embauche des contremaîtres pour s'occuper de l'usine et il continue à faire des allers-retours vers la France, notamment pour se faire soigner à l'hôpital La Hennec, et il loge alors dans le 19e arrondissement. Il essaye de reprendre son poste, mais il retombe malade, il fait un infarctus et il repart en congé. Et là, il donnera plus de nouvelles à son employeur, il répond plus aux mises en demeure. Et finalement, il décède en février 1971 à Mansoura, à proximité de Tlemcen. Donc, relativement jeune. Sa mère, la mère de Mohamed Dendan, donc sa fille Nour, elle a arrêté tôt l'école, son père l'a retirée tôt de l'école, et en Algérie, arrivée en Algérie, elle est néanmoins devenue secrétaire de direction dans plusieurs entreprises, et elle a pris sa retraite en 1996, quand l'arabisation a touché toute l'administration algérienne, parce qu'à cette époque-là, elle ne parlait toujours pas arabe, elle ne parlait que le français. Elle s'est mariée avec un musicien, M. Dendan, donc, avec lequel elle a eu 2 fils, dont Mohamed, qui a fait donc des études d'arabe, et qui s'est marié avec une Française d'origine algérienne, et lui-même est parti s'installer en France, où il enseigne désormais l'arabe au collège à Paris. Et c'est pour ça que moi, quand je l'ai rencontré, bah, pour moi, la famille était aussi restée en France tout du long. J'avais évidemment pas en tête cet épisode. Et en fait, c'est en visitant avec ses élèves une exposition à la Philharmonie qui s'appelait « Al Musica », que Mohamed Dendan est tombé sur la photographie de Boula, qu'il avait déjà vue dans sa famille en Algérie et dont sa mère lui avait déjà parlé. Donc pour finir, voilà, cet épilogue, il nous renvoie à plusieurs points cruciaux de l'histoire franco-algérienne post-indépendance. D'une part, l'ambiguïté de la situation dans laquelle sont placés les Algériens de France au lendemain de l'indépendance, à la fois par l'État français et l'État algérien. Ils sont enjoints de faire un choix entre nationalité algérienne et française en 65 puis en 67 au plus tard. La plupart vont garder la nationalité algérienne. D'abord en symbole de leur fidélité à la cause de l'indépendance. On est juste après la guerre, effectivement ça paraît très difficile de prendre la nationalité française, donc celle de l'ancien ennemi. Mais aussi de manière plus pragmatique, il y a la crainte de ne pas pouvoir retourner en Algérie, d'être assimilé à des harkis. Ce choix de la nationalité algérienne a amené beaucoup d'Algériens, ça on le sait, à perdre leur statut de titulaire. Alors lui, il ne l'a jamais eu, mais du coup, il n'a jamais pu l'être. Et il y avait des fonctionnaires, des petits fonctionnaires, des petits employés qui ont perdu comme ça leur statut de titulaire, ce qui veut dire concrètement des pertes d'avantages sociaux, de congés, de points de retraite, etc. En France, les enfants nés en France après le 1er janvier 1963, donc deux parents algériens, ont été, par le double droit du sol, considérés comme français de naissance. Et ça aussi, ça crée une drôle de situation. Parce que dans une même famille, on peut avoir des enfants qui sont nés en France avant le 1er janvier 1963 et d'autres qui sont nés après. Dans la famille Bouzécar, la question ne se pose pas, ils sont tous nés avant 1963, donc ils avaient tous la nationalité algérienne. Mais en fait, c'est une situation qui a concerné beaucoup de familles, et surtout les familles n'étaient pas conscientes de cette situation. Donc, lors des recensements de l'INSEE, avec les fameux chiffres que je vous ai donnés et dont je vous ai dit qu'ils étaient fiables, il n'y a pas de problème. En réalité, il y a une surestimation du nombre d'Algériens, parce que les familles déclarent les enfants, je vous ai parlé quand même de 130 000 enfants nés en France, déclarent leurs enfants comme Algériens, et que l'INSEE n'a pas redressé ces chiffres. Et la plupart du temps, c'est quand ils ont été appelés pour faire leur service militaire, à 18 ans, que ces jeunes hommes se sont rendus compte qu'ils étaient français. Et ils étaient français de naissance. Ils étaient français de naissance, et ils devaient donc bien faire leur service. Et en fait, ce clivage juridique, il a traversé beaucoup de familles et il a eu des conséquences, parce qu'évidemment, en fait, on n'a pas le même parcours professionnel et même les mêmes opportunités selon qu'on est français ou qu'on n'est pas français. Enfin, l'histoire de la famille Bouzécar fait ressurgir donc très concrètement la question des retours vers le pays d'origine, qui reste assez mal connu, hein. Il y a des travaux, mais assez mal connu de manière générale, faute là aussi de chiffres précis à ce sujet. J'avais mené j'avais participé à une enquête collective sur les anciens habitants des bidonvilles de Nanterre qui étaient repartis dans la région d'El Oued, dans le sud algérien, qui m'avait bien permis de mesurer l'importance de ces retours, à la fois au lendemain de l'indépendance, surtout pour les hommes, puis à mesure qu'ils atteignaient leur retraite, mais aussi pour des familles. Et vraiment, dans les années 70-80, face, encore une fois, à ces difficultés, à ces discriminations de plus en plus fortes, à un discours d'État de plus en plus hostile, il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'Algériens qui sont repartis, alors même qu'ils semblaient avoir fait leur vie en France. Dans le cas de la famille Bouzécar, c'est un peu anticipé, mais à la fois les problèmes médicaux et les ressources, encore une fois, dont disposait Abdelkrim Bouzécar, lui ont sans doute permis de faire ce choix. Et le cas de cette famille montre bien que le retour au pays, c'est pas un échec comme c'est parfois présenté. Enfin, et je termine vraiment là-dessus, l'histoire des Bouzécar, elle montre la permanence des circulations et des liens entre France et Algérie. De la même manière qu'Abdelkrim Bouzécar continue, donc après avoir ramené sa famille, de venir en France pour se soigner, pour travailler, aujourd'hui, voilà, il y a plein d'anciens travailleurs qui bénéficient de la carte de séjour retraités, qui viennent chaque année passer plusieurs mois en France, pas seulement pour se soigner, mais parce qu'ils ont passé l'essentiel de leur vie ici et qu'ils y ont beaucoup de liens et qu'ils ont du mal, certains le disent, en réalité, à vivre ailleurs qu'en France. Et finalement, le mariage de Mohamed Dendane, le petit-fils d'Abdelkrim Bouzécar, avec une Française d'origine algérienne, il est aussi le fruit de ces liens. Et cette histoire, elle permet d'expliquer pourquoi, malgré tous les efforts de l'État français pour essayer de limiter cette immigration qui a été, au lendemain de l'indépendance, globalement jugée indésirable, avec des pratiques, je pourrais y revenir dans les questions si vous le souhaitez, mais souvent discriminatoires, toutes ces mesures ne fonctionnent pas parce qu'elles butent sur la densité de ces liens familiaux qui sont profondément ancrés en raison de l'ancienneté de cette immigration familiale algérienne en France et parce que ces liens, cette migration, elle reste dynamique en raison aussi des difficultés économiques, politiques que traverse régulièrement l'Algérie qui fait que il y a toujours des gens qui quittent l'Algérie. Et donc, malgré les limitations croissantes, dont la loi immigration votée récemment est un dernier avatar, les Algériens restent aujourd'hui la deuxième nationalité la plus demandeuse des premiers titres de séjour en France après les Marocains, donc 29 000 par an, ce qui est en réalité pas énorme, et aussi la première nationalité à bénéficier de titres de séjour en France, cette fois-ci devant le Maroc. Donc ça veut dire qu'il y a 627 000 titres de séjour qui appartiennent à des Algériens en France en 2022.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.